ぽかぴぽかぴ。
Je vous invite à suivre l'émission de nos enfants congolais avec Alain Rongue à la présentation.
Bonsoir, les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux n'ont rien amélioré à la vie de nos provinces. Déclaration faite hier par Léon Kengo Adondo devant les sénateurs à l'occasion de l'ouverture de la session de septembre. Comment analyser les propos du président du Sénat? Comment améliorer le fonctionnement des institutions provinciales? Trois invités participent à cette émission. Gilbert Katsingé, conseiller chargé des questions juridiques et administratives au ministère de la décentralisation et aménagement du territoire du gouvernement central. Il est avec moi dans ce studio. Monsieur Katsingé, bonsoir.
Bonsoir.
Délice Sanga, député national MLC, ancien président de la commission politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale et président national de l'Envol, un mouvement d'action civique. Monsieur Sanga, honorable Sanga, bonsoir.
Bonsoir.
Koyagia Lungwasete Geringo, lui, secrétaire exécutif adjoint de l'AMC, ancien gouverneur du Katanga, ancien vice-gouverneur du Kasai Oriental et du Kivu, ancien maire de Likasi et de Lubumbashi. Monsieur Koyagia Lo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous le savez, chers auditeurs, que vous pouvez participer à cette émission. Vous êtes le quatrième invité. Pasteur Bosekota de Goma en Nord Kivu, les assemblées provinciales ne peuvent pas changer la vie des Congolais parce qu'elles ne sont là, elles ne sont pas là pour la population, mais pour leurs obédiences politiques. Yamé de Lubumbashi au Katanga, le président du Sénat a totalement raison car l'élection des animateurs des institutions provinciales n'avait pas tenu compte du profil des personnes, mais plutôt des considérations politiques, d'où c'est la confusion entre partis et institutions politiques. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux n'ont rien amélioré à la vie de nos provinces. Déclaration faite ce mercredi par Léon Kengo Adondo devant les sénateurs à l'occasion de l'ouverture de la session de septembre. Selon le président du Sénat, à cette allure, nos provinces ne connaîtront jamais le développement souhaité. On écoute Léon Kengo Adondo, président du Sénat, dans ses propos recueillis par Radio Capi.
Aujourd'hui, quel est l'état de nos institutions provinciales et locales? Les institutions provinciales et locales ne fonctionnent pas bien. Personne ne le conteste. Soit les animateurs ne maîtrisent pas les attentes du droit, soit n'appréhendent pas suffisamment la nature de leur mission, les ressources allouées sont irrégulières et lorsqu'elles sont effectivement versées, les entités provinciales qui les reçoivent ne les redistribuent pas aux entités de charge. Personne ne conteste là-dessus. À juger les frais, force est d'admettre que les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux n'ont rien amélioré à la vie de nos provinces. Vous venez de le voir vous-même, vous le disiez au cours de nos plénières, à cette allure, nos provinces ne connaîtront jamais le développement souhaité. Une fois encore, rappelons que le Sénat émanation de provinces doit poursuivre sa mission débutée depuis 2008 en insistant sur la pédagogie de l'élaboration des édits. Les assemblées provinciales n'adoptent jamais les édits. Les assemblées provinciales n'adoptent que les édits de budget. Et le renforcement des capacités de l'administration des assemblées pour une plus-value.
Gilbert Katsingé, comment vous analysez ces propos du président du Sénat?
Oui, merci. Je voudrais d'abord commencer par saluer tous les auditeurs de la Radio Capi, et plus particulièrement ceux qui nous suivent à partir de la ville de Butembo. Et je voudrais saluer également l'honorable président du Sénat, parce qu'il a tenté de faire une autopsie plus ou moins objective du fonctionnement des provinces.
Sans anesthésie.
Oui, sans anesthésie. Mais à moi, il convient quand même de nuancer son affirmation, parce qu'en fait, l'analyse qu'il fait de la situation au niveau de nos provinces comporte peut-être interprétée à deux niveaux. Lorsqu'il affirme que les assemblées provinciales, les exécutifs provinciaux n'ont rien amélioré à la vie des provinces, cela peut s'attendre à deux niveaux. Soit au niveau de la province elle-même comme personne morale de droit public et qui a sa personnalité juridique et qui a ses institutions, il faut reconnaître en fait que il y a eu quand même des problèmes au niveau de quelques de certaines provinces par rapport au fonctionnement des institutions. Il y a eu application parfois abusive de certaines règles de démocratie qui veulent que lorsque une institution comme l'Assemblée provinciale fonctionne avec des problèmes de déficit au niveau de certains animateurs, qu'on puisse les remplacer, ou qu'il y a eu des manipulations politiques qui ont fait que certains animateurs soient remplacés. Et donc tout cela a créé dans certaines provinces, comme à l'Équateur, par exemple, aujourd'hui, la production législative est vraiment très 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 basse à cause des situations comme celle-là. Et donc, à ce niveau-là, l'autopsie, je crois que c'est vraiment une analyse très très objective. Mais lorsqu'on considère cette affirmation par rapport à la vie des populations qui habitent ces provinces, je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment nuancer l'affirmation. Parce qu'en fait, nous avons l'obligation de rappeler que dans notre pays comme ailleurs, la politique de la décentralisation vise à garantir l'accessibilité aux services publics de base partout sur l'ensemble du territoire national en apportant des réponses de proximité aux besoins des populations. Ces réponses de proximité qui concernent les services de base comme la santé, l'éducation, l'enseignement primaire, secondaire, même l'enseignement maternel, l'agriculture, le développement rural, eh bien, ces réponses-là, on ne peut mieux les apporter que lorsqu'on aura fini de mettre sur place toute l'architecture de la décentralisation, notamment les élections au niveau des entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur, le territoire. Aujourd'hui, ce qui se passe en province, c'est un peu comme ce qui se passe au niveau du pouvoir central. Il y a un pouvoir qui est très éloigné de la base, un pouvoir, par exemple, qui fonctionne en Bandaka. Comment il peut savoir qu'il manque une école à Mobayimbongo ou à Zongo? Donc c'est un peu l'éloignement du pouvoir par rapport aux bénéficiaires des services publics. Et donc nous pourrons juger les provinces lorsqu'on aura fini de mettre sur place les entités territoriales décentralisées, de les faire fonctionner après les élections locales, municipales qui sont prévues.
Donc, si je vous comprends, ce bilan est prématuré.
Il est prématuré d'autant plus que dans certaines provinces d'ailleurs, on voit certaines actions qui sont posées, mais ces actions sont dispersées et tellement éparpillées que on ne sait pas les évaluer dans leur ensemble. Évidemment, il y a des provinces où on ne fait presque rien. Mais avant de faire une telle analyse, il faut, évidemment, il a souligné dans son discours, il faut demander qu'est-ce que le pouvoir central envoie aux provinces. Il faut se dire que la loi a prévu, la Constitution, que les provinces puissent avoir des ressources propres. Ces ressources propres-là, qui sont des taxes et tout, devraient être fixées par une loi qui n'est pas encore là. La loi sur la nomenclature des taxes et de l'autre recette, elle n'est pas encore là. Et la province devait fonctionner avec 40% des recettes à caractère national, et je n'ai pas peur de vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai qu'il y a cette rétrocession-là, mais elle n'est pas à la hauteur de 40%. Sur les 40%, il y a 10-15% qui arrivent, les autres sont constitués des investissements qui sont réalisés par le pouvoir central, mais qui sont imputés au budget des provinces. Ça fait que, bon, lorsqu'on a fait une route, on a asphalté, on impute la dépense à la province, mais on dit que c'est le pouvoir central qui a fait. Donc le débat est vraiment très sérieux, j'espère que voilà, nous aurons le temps de décortiquer.
Honorable Délice et Sanga, quelle est votre analyse à vous pour Gilbert Katsingé? Il faudrait nuancer ses propos, et cette analyse est un peu prématurée. Quel est votre avis à vous?
Merci beaucoup pour m'avoir invité à l'émission de ce soir. Je voulais d'abord dire que le propos du président du Sénat doit être replacé dans le cadre qui est celui de son institution, c'est-à-dire le Sénat, qui est une représentation des provinces. Et de ce point de vue, je comprends tout à fait que la question de la gouvernance des provinces ait été isolée de la question de la gouvernance centrale. Il reste néanmoins vrai que les vraies questions doivent se poser de manière globale. C'est-à-dire que poser la question aujourd'hui de savoir ce que les provinces ont fait pour améliorer le sort de la population et en tirer le bilan ou le diagnostic qu'a dressé le président du Sénat, c'est une chose, mais pouvoir également noter que l'action du gouvernement central n'a pas en soi amélioré le sort de nos populations partout où elles sont, est aussi une chose. On peut observer que le chef de province aujourd'hui est aussi le chef du gouvernement central dans la capacité à améliorer le sort de la population. J'en donne pour preuve, vous prenez le dernier rapport qui a été dressé par les chercheurs sur la pauvreté au Congo, vous verrez que dans certains indicateurs, les progrès n'ont pas été réalisés en matière d'accès à l'électricité, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, l'amélioration des routes de desserte agricole. Je suis encore bloqué dans la province où je suis venu à Luisa, ma circonscription pour les vacances parlementaires. J'ai été à Dibaya, à Demba, à Kazumba, dans le Kasaï occidental. On constate que rien n'a été réellement appris, ni par le gouvernement central, ni par les provinces. Donc, faire le diagnostic et stigmatiser seulement les provinces, c'est isoler un problème que je comprends par ailleurs parce que le Sénat représente ce province, mais il y a un problème de gouvernance générale en termes de la capacité de l'État à pouvoir apporter des solutions aux problèmes quotidiens de nos concitoyens. Mais par-delà même ce problème, il y a des contraintes objectives que nous devons pouvoir regarder avec sérénité, c'est que la masse, le budget tel qu'il est défendu, comme vient de le dire M. Kassingé, eh bien, quand vous voyez le budget de l'État, tel qu'il est défendu, ou tel qu'il est construit, il n'y a aucun élément qui vous permet de dire que ce budget-là va être un budget qui va relancer, si vous voulez, le pays et apporter des réponses significatives aux attentes de la population. Donc le diagnostic est vrai, mais il faut pouvoir le recadrer dans le cadre de la gouvernance globale et dire que le gouvernement central n'a pas réellement voulu de la décentralisation dans le pays, n'a pas voulu d'une autonomie forte des provinces, et les provinces aujourd'hui, pour pouvoir s'exprimer, souffrent aussi d'un problème qui lui n'est pas juridique mais d'ordre politique, c'est que toutes les provinces ont été dans le même camp politique et sont devenues des pièces de résonance du pouvoir central. Ce qui fait qu'un élément qui a été dans la Constitution voulu comme étant un élément d'équilibre et de séparation des pouvoirs pour défendre l'intérêt des provinces, cet élément a totalement été absorbé et n'existe plus. Donc nous sommes dans un monolithisme qui est en train de se consolider, mais qui, en même temps, a pourvu les politiques publiques au niveau provincial et au niveau national. Si vous n'avez pas dédié aujourd'hui en province, c'est pour dire tout simplement qu'au niveau de ces provinces, dans le domaine où même il n'est pas obligé d'avoir de loi cadre au niveau national, c'est la preuve que dans ce domaine-là, il n'y a pas de politique publique conçue, claire, par les provinces pour pouvoir entreprendre leur démarche. Donc, je partage assez globalement le propos du président du Sénat, mais qu'il faut pouvoir recadrer dans le cadre de la gouvernance générale, et je crois qu'on peut le faire également pour le gouvernement central qui n'a pas amélioré le sort de la population.
Honorable, vous avez suivi tout à l'heure Gilbert Katsingé, ce bilan, cette analyse était un peu prématurée. Qu'est-ce que vous en dites?
Donc, dire que le bilan est prématuré, c'est quand même assez excessif, parce que quand est-ce qu'on fait le bilan? Nous sommes dans le cadre d'une législature qui tire à sa fin. Nous sommes à un an des élections et pour renouveler les chambres. À défaut de pouvoir dire que nous avions une décentralisation qui était consolidée, que nous avions des provinces qui étaient politiquement régionalisées et dont le fonctionnement était déjà établi, on peut constater au moins une chose, que sur ce point, il n'y a pas eu d'avancée. Comme il l'est dit, les provinces restent, continuent à rester des entités parfois trop larges et que, en tant que telles, sont difficiles à gouverner. Je ne sais pas si les gens réalisent que ce pays, quand vous prenez la province orientale, c'est comme à quelques kilomètres carrés près, c'est comme si vous aviez la France, mais à une seule entité, avec 1 000 fois moins d'infrastructures qu'à la France, et qui est gouvernée comme cela. Alors, le découpage envers ces provinces qui devait donner un nouveau tonus à cela n'a pas été voulu dans le domaine. La volonté du gouvernement fait défaut dans l'allocation de ressources à ces provinces. Les provinces reçoivent le cadre du mariage, comme le dit M. Kassinger, c'est pour les pays centrales qui dépensent pour elles. Et ensuite, je veux dire, un élément politique qui aurait pu améliorer la gouvernance de ces provinces, que l'on a fait pour une, lorsque j'étais encore président de la PAI, j'ai fait la proposition, par exemple, que l'on puisse rationaliser le mécanisme de contrôle des exécutifs provinciaux. Les députés avaient trouvé que cela allait restreindre le pouvoir des députés provinciaux, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est devenu véritablement la foire, et bien avant le président du Sénat, le président de la République, dans son discours à la nation, je crois, de l'année dernière, a déstigmatisé ces seigneuries locales.
Merci.
Qui sont à la fin de féodalité.
Merci. Lui, Koyaga Lungba, c'était Guerungbo. Vous avez beaucoup travaillé dans la territoriale. Hein. Quelle est votre analyse à vous?
Je voudrais d'abord saluer les deux compatriotes qui ont eu à exprimer leur point de vue sur le discours du président du Sénat. Je voudrais également m'associer à eux pour confirmer que ce que le président du Sénat a fait comme analyse est tout à fait correcte, mais comme le conseiller, je voudrais aussi nuancer parce que il ne suffit pas tout simplement de faire le constat de ce qui se passe aujourd'hui dans nos provinces, que les effets très limités de la décentralisation en termes du développement à la base. Mais j'aurais voulu que le président du Sénat dise pourquoi on en est là. Et là, je crois qu'il faut en revenir aux conditions qu'il faut réunir pour qu'une décentralisation puisse réussir. Je vois les transferts des moyens, les moyens financiers surtout. Je vois les transferts des ressources humaines. Je vois les transferts des ressources techniques. Et je vois tout un arsenal de lois qu'il faut mettre au point pour que la décentralisation puisse réussir et aller harmonieusement. Or, justement, nous avons tous suivi pendant tout ce temps la guerre de 40% entre les provinciaux et le gouvernement central. On n'a pas exécuté les dispositions constitutionnelles en matière de 40%, et pour plusieurs raisons, parce que même moi, qui avais participé à l'élaboration de l'avant-projet de cette constitution, on ne s'était pas rendu compte de la difficulté de l'application des 40%. Donc, l'application des 40%, non seulement il est idéaliste aujourd'hui par rapport au fonctionnement de l'État dans son entièreté, mais aussi risque de créer une différence dans le développement provincial et une désolidarité du développement à l'échelon national. Or là, justement, c'est un problème qui se pose et auquel il faudrait trouver une solution. En ce qui concerne les ressources humaines, vous savez que c'est par la voie des urnes que nous avons aujourd'hui les députés provinciaux, que demain nous aurons aussi les députés entre griffes au niveau de nos secteurs, de nos chefferies, de nos communes et de nos villes. Et là, ce sont des gens qui viennent aux affaires de l'État sans y avoir été préparés. Et ça pose des problèmes parce que la gestion des affaires de l'État n'est pas une mince affaire. Il faut avoir une culture de gestion que les députés provinciaux et demain les députés des communes, les députés du secteur et des chefferies n'ont pas nécessairement. Et comme tout le monde le dit, il faudra un temps pour la formation, un temps de renforcement de capacité. Et tant que nous n'y sommes pas encore entièrement, en tout cas, ça continuera à poser des problèmes. Les lois sur la décentralisation, les lois, par exemple, sur la caisse de péréquation, sur la fonction publique nationale, provinciale et locale, eh bien, cette loi-là n'est pas encore édictée. L'honorable Sessana qui m'écoute ne dira pas le contraire. Or, justement, il faut un personnel adapté pour faire le travail de la décentralisation que nous n'avons pas encore. Et à faute d'avoir ce personnel-là, nous ne pouvons aboutir qu'à une administration inadaptée à la décentralisation. Donc tous ces éléments réunis justifient ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui comme fait. Donc il ne faut pas condamner d'une manière dirimante le fonctionnement de notre province. Il faut réunir un peu tous les éléments, chercher où se trouve le boulot d'étendement, les causes, et pour, si vous voulez, essayer de donner explication aux effets.
Alors, vous venez d'énumérer plusieurs préalables hein, pour la réussite d'une décentralisation. À observer sur ce qui se passe sur le terrain, peut-on craindre que l'on ne soit à mal parti en ce qui concerne la décentralisation en RDC?
Moi, je ne dirais pas oui, et je ne dirais pas non plus. Hein. Nous y sommes, et je crois que c'est irréversible. Il y a même un article de la Constitution que je n'ai pas en tête, qui dit qu'on ne peut plus revenir sur la décentralisation. On ne peut plus faire une révision qui entame les compétences des provinces. Donc, on y est. Alors maintenant, je crois qu'il faut plutôt savoir prendre notre mal à patience. Essayer, n'est-ce pas, au fur et à mesure de le processus, de rectifier là où il faut rectifier, sans entamer la Constitution. Et là, ça prendra du temps, et il faudra accepter, n'est-ce pas, le temps que ça prendra, pour que nous puissions arriver à une vitesse de croisière dans le terme de développement à partir de la base.
Gilbert Katsingé, l'honorable Sesanga, parle plutôt d'un problème de gouvernance générale. Il a aussi fait allusion, hein, comme M. Koya Diallo, au profil des animateurs qui n'ont pas été préparés à la faiblesse du budget. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, merci beaucoup. Bon, je crois que je suis presque sur la même voie, parce que je vous ai dit que la décentralisation, c'est un processus. Pour nous, au ministère de la décentralisation, nous la considérons comme un processus. Un processus qui commence par le premier pas, on fait le deuxième, le troisième, et je dois vous assurer qu'à ce jour, nous avons déjà commencé le premier pas, nous sommes au deuxième, parce que nous avons commencé par d'abord la constitution qui est là, nous avons fait voter quelques lois, il y en a maintenant 5 aujourd'hui, si vous ne le savez pas. Nous avons la politique de la décentralisation qui est en train d'être appliquée, qui est couchée dans ce qu'on appelle le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Et aujourd'hui, au niveau des provinces, si vous y allez, vous allez constater quand même qu'il y a une certaine vie, hein, il y a une certaine vie politique, parce que la province, selon la Constitution, est une composante politique et administrative qui fonctionne avec des institutions politiques et non pas des organes. Et lorsque vous arrivez dans des provinces, vous sentez qu'il y a une administration. Moi, j'ai été émerveillé en arrivant à Nord Kivu. Je trouve toute une administration avec des véhicules pour investir Nord Kivu, des actions qui se font. J'ai vu chaque jour à la télé la province de Bandundu où il y a des écoles qui sont inaugurées, il y a des ponts, il y a des routes qui sont asphaltées. Donc, il y a déjà quelque chose qui se fait. Même dans les vieilles démocraties comme au Canada, aujourd'hui, on n'a pas encore parachevé tout le processus de la décentralisation. Il faut donc, comme l'a dit l'honorable Koya Diallo, il faut qu'on prenne notre mal en patience, mais nous devons ensemble nous approprier ce processus et cheminer ensemble avec lui pour que nous puissions arriver à faire bénéficier le peuple des effets positifs de la décentralisation. Je voudrais donc dire, parce que nous on étudie tout le système de décentralisation dans le monde, que les États les plus solides aujourd'hui, comme la France, le Canada, l'Allemagne, eh bien, ce sont des États qui ont commencé à se construire à partir de plus petites entités. Donc, le développement part des plus petites entités pour se répercuter au niveau du sommet. Un peu comme lorsqu'on construit une maison, on ne peut pas commencer par le toit, il faut commencer par la fondation. Lorsqu'on aura consolidé,
il faut remplir les préalables.
Justement, il faut les remplir, mais il ne faut pas que ce préalable vous bloque, parce que oui, en dépit de tout ce qu'on évoque comme difficulté, l'absence de certains textes de loi, les processus fonctionnent. J'ai été personnellement dans la province du Maniema, ce n'est pas la province du Maniema qui se connaît il y a 4-5 ans. Il y a quand même des choses qui bougent. On sait qu'il y a une administration de proximité qui essaye tant bien que mal de satisfaire aux besoins sociaux de base.
Alors très brièvement, Gilbert Katsingé, il y a Max Ndi qui nous écrit de Masadio Bakongo qui dit « Les assemblées provinciales comme les exécutifs provinciaux sont une expérience malheureuse. La lecture du président Kengo est objective. » Brièvement, qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, je ne peux pas aller dans le même sens que cet auditeur. Je respecte bien son point de vue. Et j'aurais voulu qu'ils disent bon, puisque c'est une expérience malheureuse, on arrête. Mais ils n'osent pas dire qu'on arrête. Et donc, on a toujours dit que l'expérience, c'est l'ensemble des erreurs qu'on commet. L'ensemble des erreurs qu'on a commises constitue l'expérience, parce qu'à partir de ces erreurs, on arrive à corriger. Et j'ai toujours eu l'occasion de dire devant ce micro que l'une des fautes que nous avons commises lorsque nous avons mis en place les assemblées provinciales, c'est de n'avoir pas prévu dans la loi électorale un profil minimum pour les députés provinciaux. Parce que quand vous allez dans les provinces, eh bien, vous allez comprendre pourquoi il y a des députés. Il y a des députés qui ne se retrouvent pas, qui pensaient que bon, c'était une occasion juste d'aller de se caser. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, il y a des choses tellement techniques qu'avec le niveau que certains ont, ils ne se retrouvent pas. Ça fait qu'il y a une petite poignée de députés provinciaux qui travaillent, mais d'autres sont des applaudisseurs automatiques.
Honorable Sessanga, il y a deux autres auditeurs, Robert Baomé de Bukavu Sud Kivu. Comment les assemblées provinciales pouvaient-elles améliorer la vie des institutions provinciales lorsque 4 ans durant, elles ont été dans la plupart des cas championnes en motion de censure ou de défiance contre les gouvernements provinciaux ou certains de leurs membres au lieu de travailler sérieusement pour leurs populations respectives? Choma Morlaix de Kisangani dans la province orientale, la déclaration de Léon Kengo à Dondoué vrai dans le sens que depuis l'installation de ces institutions provinciales, nous assistons au blocage des assemblées provinciales par l'ingérence de Kinshasa. Kinshasa cause des démissions de plusieurs présidents des assemblées provinciales à cause des injonctions intempestives. Honorable Sessanga.
Écoutez, nos deux auditeurs ont souligné le point de vue de Jean-Claude tout à l'heure. D'abord que je suis partisan d'une rationalisation des mécanismes de contrôle des assemblées provinciales. Je pense que plus on rapproche du niveau de gestion de proximité au niveau local, il faut bien que le mécanisme de contrôle ne donne pas lieu systématiquement à ces motions de défiance, ces motions de censure qui, parfois, à ce niveau-là, ne correspondent pas à la nature des besoins politiques, économiques et sociaux qu'on y rencontre. C'est pourquoi j'avais proposé à cette époque-là que l'on puisse non pas supprimer des contrôles sanctions, mais que l'on puisse les rationaliser, c'est-à-dire rendre leur mise en œuvre un peu plus facile et moins fréquente afin de permettre à ce que les assemblées travaillent. Je même pensé qu'au niveau des assemblées locales, il était bon qu'on puisse avoir l'exécutif comme une émanation directe de l'Assemblée délibérative sans pour autant qu'il y ait une séparation stricte entre les deux. Et cela se fait dans certains pays, ça marche plutôt bien. Parce que j'ai comme l'impression que l'absence de cette culture politique au profil des animateurs, et il faut dire, le Congo n'a pas les moyens de cette démocratie-là locale. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le cadre compétent dans les différents cas politiques et que vous les répartissez dans les différents partis, vous procédez à vous passez un processus électoral pour pouvoir sélectionné, vous avez nécessairement des niveaux qui remontent, c'est-à-dire de la mauvaise qualité qui remonte à la surface et qui ne permet pas de pouvoir mieux animer cette décentralisation. De l'autre côté, je pense qu'il y a une absence manifeste de volonté politique. Les provinces sont des entités politiques. Et si on les a mis dans la Constitution, ce n'est pas une erreur. On aurait pu procéder dans la conduite de ce changement, dans la conduite de cette transformation, de cette réforme, faire en sorte que les provinces, avec le gouvernement central, puissent se mettre ensemble pour concevoir la mise en œuvre par étape. Or, on a eu l'impression que non seulement le gouvernement central était totalement désintéressé de la mise en œuvre de la décentralisation. Je vous rappelle que bon nombre de lois dans leur élaboration étaient le fait du gouvernement central. On n'a pas senti une volonté ferme de ce point de vue. Et je pense aussi que politiquement, nous avons souffert du changement de plus de 3 ministres en moins de 5 ans sur une réforme aussi essentielle avec une réorganisation qui n'a pas toujours apporté en termes de qualité et d'efficacité la mise en œuvre de la décentralisation. Donc, ce moment qu'aujourd'hui, le citoyen a l'impression que ça ne marche pas parce que le pouvoir central lui-même a voulu se mêler et diriger en direct les provinces. Et quand vous venez en province, c'est vrai que pour M. Cassini, ça marche, suivant ses observations, l'œil qu'il a de ce point de vue, Mais quand on vit en province, on a l'impression que ces provinces n'ont pas appris leur autonomie et leur capacité de travail. Et quand vous parlez avec tous les gouvernements, ils sont tous de la même tendance politique, quand vous parlez avec eux, ils vous disent qu'ils ne reçoivent pas les moyens nécessaires pour accomplir leur action. Et quand on regarde effectivement ce qu'ils reçoivent, on peut bien se poser la question avec quoi ils peuvent améliorer le sort de nos populations. Mais il faut que ce soit le peu politique. Il faut que dans la conduite du changement, il y ait une stratégie ferme, pas seulement un document que l'on fait parce qu'il faut le présenter d'ailleurs et que ça présente bien, mais quelque chose à laquelle on a foi pour amorcer cette réforme de manière beaucoup plus efficace.
Merci, honorable Sesanga. Louis Kouya Diallo, vous allez réagir très brièvement au propos de l'honorable Sesanga et de Gilbert Kassingé, mais il y a aussi cet auditeur Théo Chamba, qui est à Kananga, au Kassai Occidental, qui dit « Le président du Sénat a pleinement raison, car nos députés provinciaux sont impuissants quant au contrôle des exécutifs dont ils sont redevables. Ils ont été imposés par leur famille politique lors des élections. C'est ainsi que le peuple ne trouve pas son compte, mais 2011 n'est pas loin, le rendez-vous est donc pris. »
Bien sûr que le compatriote qui a fait cette intervention a fait le constat de ce qui se passe un peu à travers nos provinces. Et il va savoir que les députés provinciaux, lorsqu'ils font usage à des motions, que ce soit une motion d'interpellation, motion de censure, motion de défiance, eh bien, c'est l'exécution des dispositions constitutionnelles. Et là, on n'a vraiment rien à leur reprocher. Et ce qu'il faut plutôt reprocher, c'est que l'exercice de ce prérogatif déstabilise les institutions. Alors, en ce moment-là, l'objectif qu'on veut atteindre à travers la décentralisation ne pourra pas être atteint parce que lorsque les institutions sont instables, qu'il y a chaque trimestre, par exemple, le changement de gouvernement, ou bien lorsque le gouverneur et son gouvernement travaillent sous la peur d'être frappés d'un moment à l'autre par une motion capricieuse, alors en ce moment-là, ça ne met pas les gens dans les conditions psychologiques de bien travailler et donner leur rendement. Ça, c'est d'un. Et de deux, je voudrais quand même confirmer, n'est-ce pas, que les moyens qui, normalement, devraient être mis à la disposition de nos projets, ce sont les mêmes moyens que le pouvoir central utilise pour faire face à beaucoup de problèmes. Or, justement, il faut aller plus loin, et l'honorable, ce sont les qui m'écoutent, ne va pas me contredire, pour voir le budget et quelle est l'enveloppe du budget au niveau national. Nous sommes tous d'accord, et lui y compris, que le budget ne permet même pas de faire face aux problèmes essentiels au niveau national. Et alors, si on ne peut pas y faire face, comment pensez-vous qu'on peut réaliser avec efficacité les priorités au niveau de nos provinces? C'est ça le problème. Tout se résume en termes de l'enveloppe budgétaire que le peuple congolais met à la disposition à travers leurs élus, les députés et les sénateurs, met à la disposition du gouvernement. Et c'est d'ailleurs pourquoi les 40% aujourd'hui, on ne peut pas appliquer dans l'intégralité telle que l'exige la Constitution parce que nous condamnerions certaines provinces à la disparition et nous avantagerions d'autres provinces dans l'opulence. Or, justement, ce n'est pas ça la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais voudrait que le problème soit résolu avec des moyens de proximité par les gouvernants de proximité pour assurer un développement harmonieux dans l'ensemble du territoire national.
Merci.
Et lorsqu'on applique dans l'intégralité les 40%, vous avez d'autres provinces qui ne pourront même pas avoir de quoi faire fonctionner les institutions provinciales et a fortiori assurer le développement. C'est ça le problème.
Alors, vous avez pratiquement déjà abordé la deuxième partie de cette émission, lui, Koya Gallo. Donc, si je comprends, pour améliorer le fonctionnement des institutions provinciales, il faut avoir un budget conséquent, mais par-delà le budget conséquent, que faudra-t-il encore?
Eh bien, rapidement, avec une petite expérience territoriale que j'ai, je crois qu'il faut, comme disait le patriarche Gisinga, permettre à celui qui arrose d'arroser plus loin.
C'est-à-dire
c'est arriver le fond jusqu'au niveau des secteurs. Et c'est ça l'objectif. Et je vois par exemple la constitution allemande
qui détermine dans la Constitution la quotité qui doit revenir à chaque entité dans la Constitution. Ce qui fait que dès que le fonds tombe dans l'escarcelle de l'État, eh bien, on sait qu'autant va vers les communes, autant va vers le secteur, autant va vers les provinces et les villes. En ce moment-là, on évite de recentraliser quelque part ce qui devrait normalement être décentralisé.
Ok. Gilbert Kessinger, que faut-il, d'après vous, pour améliorer le fonctionnement des institutions par-delà les éléments énoncés par Louis Kouyagalo?
Oui, je plaide pour la promotion d'une culture politique. Parce qu'en fait, la plupart des problèmes que nous connaissons au niveau de la province résultent du fait que la culture politique n'est pas très très poussée dans le sens de certains acteurs. Vous voyez, on a dénoncé dans beaucoup de provinces l'usage abusif des instruments juridiques que sont les motions de science, les motions de censure. Nous avons une province qui a connu 3-4 provinces, 3-4 gouverneurs en peu de temps. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une promotion. Et cela passe par le renforcement des capacités. Nous avons commencé à sensibiliser, à former certains députés provinciaux au niveau du ministère avec l'appui du partenaire. Et petit à petit, la culture vient. Donc, ce n'est plus comme au début où il suffisait qu'un député soit en difficulté financière, une menace de gouverneur d'une motion, et ça devient compliqué. Donc, petit à petit, comme je vous l'ai dit, c'est un processus, et bien les choses vont aller s'améliorant. La deuxième solution pour que la situation s'améliore, je l'ai toujours dit, il faudrait que la prochaine fois, lorsqu'on va aller aux élections, que le législateur puisse définir un plus profond minimum. Ne fût-ce qu'un niveau d'études minimum, parce qu'il y a, je vous dis qu'il y a des députés qui écrivent même difficilement leur nom. Il a été élu parce que, bon, dans son coin, il sait faire rire les gens, et puis finalement on dit, bon, on t'envoie là, tu vas nous représenter. Or, le fonctionnement de l'État, c'est beaucoup plus que faire rire les gens. Et il faut que la volonté politique aussi, au niveau du pouvoir central, parce que ça, on ne le dit jamais assez, au niveau du pouvoir central, au niveau des acteurs, qu'elles soient réelles, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a quand même des forces qui retiennent la mise en œuvre de la décentralisation et qui font que, bon, on avance, mais on a l'impression qu'il faut graisser la machine pour que ça aille plus vite. Et donc, pour que ça réussisse, nous devons parachever l'élaboration des textes de loi. Il y a beaucoup qui sont chantiers, qui sont déjà adoptés au Conseil des ministres, d'autres sont déjà transmis. Et donc, si on parachève cet arsenal juridique, je crois que ça peut aller mieux.
Honorable Sessanga, vous parliez déjà, vous, de la rationalisation des mécanismes de contrôle, en plus des éléments avancés par Gilbert Kattinge et Louis Kouyagalo. Qu'est-ce qui peut être ajouté pour améliorer le fonctionnement des institutions provinciales?
Je pense qu'il faudrait qu'on mette dans cette réforme un peu plus de méthode dans la manière de la conduire. On n'a pas de visibilité, un plan cohérent pour sa mise en œuvre, arriver à des résultats concrets. Deuxièmement, quand tu fais tous les intervenants, on a l'impression que cette réforme, on veut la mener de façon strictement administrative, alors qu'il y a une dimension politique forte qui indique qu'il faut qu'il y ait des débats et des discussions avec les acteurs provinciaux. Et de notre côté, je pense effectivement qu'il faudrait améliorer les critériums pour les élus. Mais moi, je suis souvent dans les territoires à l'intérieur du pays et je vois que la plupart des électeurs qui sont issus de leurs élus s'attendent à pouvoir fonctionner et ont mieux compris les exigences du fonctionnement de la démocratie. Et je pense qu'il faut la laisser faire, parce que si vous parlez du critérium qu'il faut mettre dans la loi, alors il faudra la mettre pour toutes les responsabilités de la République. Et M. Kouyagalo ne me démentira pas, il fait tout le mal que l'on a eu en 2005, quand il a fallu élaborer cette constitution, pour pouvoir fixer les critériums à ce niveau de responsabilité. Je crois que le choix qui a été fait par les constituants a été de laisser le cœur libre de son choix. Et parfois, je crois que c'est dans la demeure que l'on conçoit des choses les plus durables. Parce que vous n'empêcherez pas une circonscription de porter son dévolu sur plein de collègues candidats. Mais aujourd'hui, les gens réalisent quand même les limites de ce type de choix. Et je crois que c'est beaucoup plus mature et beaucoup plus efficace que de passer par les biais de la loi. Un dernier élément, je pense que la volonté politique, c'est la ressource première. Et j'ai comme l'impression que dans cette affaire, il a manqué de volonté depuis le début et qu'on n'est pas avancé. Sans doute qu'il y a des contraintes techniques, qu'il y a des contraintes économiques, ça c'est évident, des contraintes politiques, mais la volonté a été défaite pour pouvoir avancer sur cette réforme, et c'est pourquoi nous en sommes là.
Merci. Lucoya Gallo, y a-t-il nécessité d'inclure dans la loi électorale, comme a proposé Gilbert Katzinger, le profil du futur député provincial, par exemple?
C'est mon souhait, n'est-ce pas, qu'il faut un minimum pour gérer les affaires de l'État, un minimum de connaissances et de maîtrise au plan technique. Mais lorsqu'on regarde sur le plan politique, sur le plan de l'expression du peuple vis-à-vis de ce que ce peuple juge à la hauteur de la tâche, on s'est dit, est-ce qu'il faut limiter la volonté du peuple par des critères légaux? Le problème se pose et c'est au niveau de l'Assemblée nationale et des Sénats qu'il faudrait prendre la décision. Parce que, en 2006, effectivement, cela a été question, ça fait l'objet d'un grand débat. Et finalement, l'option définitive qui a été prise, c'est de laisser le peuple qu'il ait le dirigeant qu'il mérite. Et voilà que nous y sommes. Le peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Maintenant, il faut peut-être, au niveau de l'élite, essayer de donner, définir le contour de cette libre expression de la population, d'où je suis d'accord pour que on donne un critère minimum d'expérience, de technicité pour accéder aux fonctions de la direction des affaires publiques.
Merci. Il y a des auditeurs qui continuent à vous écrire. Diakanda au Katanga, j'appuie totalement les propos du président du Sénat. Il n'y a-t-il pas moyen de renforcer les pouvoirs des députés provinciaux pour leur faciliter le contrôle des exécutifs provinciaux? Patrick Chilumba dans Bujumbura au Kasai Oriental, je salue avec courage le constat fait par M. Kingo parce que la plupart les assemblées provinciales sont remplies des députés qui ne travaillent que pour leurs intérêts. Nous abordons la dernière partie de cette émission. En plus, il y a Aline Riziki Kimongé de Vira au Sultibou. Je pense que le constat fait par le président du Sénat à l'égard des institutions provinciales est fondé, d'où le renforcement des capacités de membres de ces dernières sur la gestion de la chose publique impulsera nos provinces sur tous les plans. Alors, Gilbert Katzinger, brève conclusion parce que l'émission va toucher à sa fin. En un mot, je pense.
Oui, je voudrais, pour conclure, inviter tout le monde à comprendre que le processus est irréversible. Nous allons enregistrer certes les plaintes, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Nous devons soutenir la décentralisation parce que c'est le seul remède contre le sous-développement de notre pays.
Merci, honorable Sessanga. Un mot en guise de conclusion.
Je crois que la prochaine législature donnera à ce pays une majorité permettant de pouvoir conduire cette réforme avec beaucoup plus d'efficacité que cela n'a été au cours de ces 5 dernières années.
Merci.
Et de donner aux gens d'espérer, les raisons d'espérer que dans la décentralisation et le fonctionnement autonome des provinces, il y a du développement pour ce pays.
Merci, honorable. Louis Coyagallo, un mot pour conclure aussi.
La décentralisation, c'est le processus. Nous sommes à la première mandature. Je suis convaincu que nous irons d'amélioration en amélioration.
Merci.
C'est lui, du fait que le peuple lui-même regarde ce qu'il a produit comme
direction. Merci Luc Oyagal, au fond de cette émission. Merci à vous qui avez été très nombreux à nous suivre. Merci à Sylvain Matundu, Guy Maté, Kéline Couté, Martin Sebujangwe et Eric Sidiakala. Devant ce micro, Alain Irung, restez branchés sur Radio Kapi.